poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous dans Deux Boules Vanille, votre rendez-vous de l'été en juillet et août sur Canal B du lundi au vendredi 17h-18h et puis rediffusion du mardi au samedi matin de 9h à 10h. Une émission qui aujourd'hui nous permettra pour une troisième fois de retrouver Richard Delogu qui nous emmène vers l'Americana et aujourd'hui dans le troisième épisode de cette série l'Americana vue d'ailleurs. On retrouvera aussi Soisig Le Bay avec sa série d'entretien Une autre voix. Elle s'est entretenue avec des femmes qui ont changé de vie professionnelle. Aujourd'hui, elle parlera avec Lydia Lacour, libraire à La Rencontre du côté de la Plaine de Beaux. Et puis, on retrouvera aussi Léa qui nous parle bande dessinée dans ces ondes graphiques qui prennent le large avec aujourd'hui la présentation de Bugalette Braise par Pascal Bresson et Erwan Le Saec, paru chez Locus Solus en 2016, mais aussi en poche, et c'est l'objet de ces chroniques, de nous présenter des bandes dessinées qui peuvent se balader avec vous cet été. C'est paru en poche donc chez Locus Solus en juin 2026. Et puis on terminera l'émission avec une rencontre un peu particulière. Clément Sanson de Radio Bois a pu rencontrer au Festival des Vieilles Charrues, Émile Rabaté, journaliste et documentariste lorientais, et aussi ami de Christophe Glaise, journaliste au magazine SoFoot, emprisonné en Algérie. Et c'est pour nous présenter un petit peu les faits et le contexte, ainsi que prendre des nouvelles de Christophe Glaise, qu'il a fait cet entretien. On l'écoutera en fin d'émission tout à l'heure. Mais on commence directement avec Richard Delogu dans quelques secondes, qui nous propose l'Americana vue d'ailleurs. Bonne émission. Dans l'émission Double Vanille sur Canal B, le vendredi, je vous propose une petite balade en compagnie de Richard Delogu. Bonjour Richard.
Bonjour Yann.
Une balade qui aujourd'hui nous emmènera peut-être pas aux confins de Tucson, Arizona ou à Nashville, Tennessee. Non, on va revenir un petit peu en France peut-être, pas seulement, et aller ailleurs parce que l'Americana, c'est possible de la voir et de la faire ailleurs qu'aux États-Unis. Une musique, on l'a dit à plusieurs reprises, qui n'est pas un genre, mais qui est un mélange de pas mal d'influences du rock au bluegrass, en passant par la soul, la folk, le blues, la country. Vous connaissez les grands noms, hein, vous avez déjà entendu dans votre vie Bruce Springsteen, peut-être moins Wilco ou Drive By Truckers. C'est des groupes qu'on ne cite pas, qu'on n'écoute pas en tout cas dans cette émission avec Richard, parce que ce sont des grands noms. Mais vous aurez une playlist intégrale de tout ce qui a amené Richard à nous proposer cette série-là. Et aujourd'hui donc, l'Americana vue d'ailleurs, mais d'où exactement ?
Bah de plein d'endroits dans le monde en fait, parce que l'Americana, comme c'est une sensibilité musicale plus qu'un réel mouvement, c'est vrai que pas mal d'artistes dans le monde entier s'en sont inspirés, enfin se sont inspirés aussi de Neil Young, de Songzoya ou de multiples influences. Et c'est vrai que pour commencer par Rennes par exemple, il y a quelques groupes rennais hein, qui peuvent se revendiquer très clairement du mouvement Americana. Alors un peu dans le lofi avec Cake Room à l'époque, plus dans lequel on décelait des influences de Lou Barlow par exemple, et ce côté très lofi, très bricolé. Ensuite il y a eu quand même Santa Cruz, je dirais première version peut-être un peu moins pop et vachement plus blues, folk, et Welcome to the Red Barn,
si je me souviens bien. Bienvenue dans la Grange Rouge, ça c'est un très très bon album de Santa Cruz.
Ouais, tout à fait. En plus il y a Léo 88 si je me souviens bien, ensuite, qui a émergé aussi. Donc, il y a eu quand même à Rennes vraiment toute une scène qui s'est inspirée du folk et ses influences très américaines.
Tu ne citeras pas le groupe parce que tu en fais partie, mais quand même, le groupe Palm, basé entre Vannes et Rennes, a aussi écrit quelques pages plutôt réussies, inspirées de ce genre-là. Voilà, je me permets ce petit compliment.
Oui, bah c'est en effet une influence majeure et bon, c'est vrai qu'visiblement on est plus si nombreux.
Eh bien, en tout cas, il en existe des gens, des artistes peut-être un peu plus réputés hors de Rennes. Ça n'enlève pas du talent à ceux que tu citais, mais on va aller vers une artiste qui, elle, a carrément enregistré avec un des groupes majeurs de la période plutôt des années 2000 de l'Americana.
Oui, alors ce titre en particulier, il a vraiment une histoire assez incroyable, parce qu'il est hérité d'un album de Françoise Breu, puisqu'il s'agit de Françoise Breu, qui est une artiste, bon, pour ma part, que j'adore, mais depuis toujours, en fait. Et donc, elle a enregistré cet album, le 20 à 30 000 jours, composé en partie par Dominica, Sacha Tourop, etc., enfin, une multitude de compositeurs. Et ce titre, si tu disais, a été ensuite repris par Calexico, je dirais un des groupes phares de la sensibilité americana, plutôt de la scène de Tucson, et on a vu émerger en fait des espèces d'échanges entre Tucson et la France, avec une multitude d'autres groupes qui sont allés enregistrer à Tucson dans le studio Calexico et des autres, parce qu'il y a toute une scène à Tucson, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais quand même assez extraordinaire. Et donc c'est vrai qu'en France, via le label Fargo aussi, il y a pas mal de tourneurs aussi qui sont emparés de cette scène-là. Et donc ce titre a été ensuite traduit en anglais et repris par Calexico, et hyper bien chanté par Françoise Breu. Et c'est d'autant plus incroyable qu'il a été en partie enregistré à Budapest, ce qui n'a absolument rien à voir avec la scène américaine.
On l'écoute donc, Françoise Breu, sans Calexico, si tu disais.
Si tu disais on y va, si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi, je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas, je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'approuverai, crois-moi, je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure, je connais trop le dessin de cet endroit-là, où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi, je suis prête depuis longtemps. Mais tu ne dis rien de tout ça, tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là.
Vous connaissiez peut-être, j'imagine, cette chanson « Si tu disais » par Françoise Breu. Vous la retrouverez aussi dans une version accompagnée par le groupe Calexico. Et ça, on n'écoute pas aujourd'hui, puisqu'on se balade ailleurs, au Canada maintenant, il semblerait.
Oui, alors en France-Canada, ouais. Puisque Théo Laurence, puisqu'il s'agit de Théo Laurence, très jeune artiste, très jeune et assez écœurant d'ailleurs, de ce point de vue, a émergé, on va dire, en 2013, si je me souviens bien, ou 2016, via un premier album qui était très soul, en fait, par ce jeune homme qui est franco-canadien, donc qui maîtrise parfaitement la langue anglaise, qui compose très très bien, qui chante à merveille, hein, vraiment, il a une voix assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on s'est fait fait berner dans un premier temps avec cet album très soul. Pour ma part, j'étais un peu moins fan. Et puis, il a sorti ensuite un album qui s'appelle Sauce Piquante, qui est sorti en 2022 et qui est assez extraordinaire. Là, pour le coup, il plonge dans les influences entre Roy Orbison, Johnny Cash, etc. Il mélange tout ça avec énormément de bonheur. Ça joue à la perfection, c'est-à-dire qu'il a vraiment des musiciens français. Je répète, il a enregistré en partie au Tourag aussi une session live que je vous invite à regarder sur YouTube, qui est assez extraordinaire. Et donc, il a un succès qui est quand même, je dirais, pas du tout à la hauteur de son talent, en France en tout cas, ça c'est certain. Il se trouve qu'il a sorti depuis des EP, des albums, des 45 tours, et actuellement il est en train de faire une énorme tournée aux États-Unis avec Alison Krauss, et il tourne partout aux États-Unis et dans le nord de l'Europe, mais très rarement en France.
Alors quand je disais on part au Canada, c'est parce que peut-être qu'il a une carrière qui marche mieux de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, aux États-Unis, qu'en France.
Non, mais c'est certain. C'est-à-dire qu'il a déjà tourné avec pas mal d'artistes de country, et il tourne dans tout le sud des États-Unis, à Nashville notamment. Et c'est vrai qu'il a pas mal de succès dans le nord de l'Europe également. Et pour le coup, alors après, c'est quelqu'un d'extrêmement simple et humble, hein, et en live, c'est juste un réel bonheur, parce que on a vraiment la sensation de parfois, il serait capable de chanter du Roy Orbison, ce qui est quand même pas donné à tout le monde.
On écoute Théo Lawrence dans ce troisième épisode d'Americana sur Canal B dans De Boule Vanille.
Your ways are cold today, dismissing what I say. You've got a mind for bugging me. Like upsetting me, but I don't mind the challenge, darling. There's nothing that I wouldn't go through. That's what I do. I've got a mind for loving you. You track all the steps I take, suspect a big mistake. You've got a mind for dogging me. You bumming all my cigarettes, no shame and no regrets. You've got a mind for teasing me. Experiment all that you wanted. There's nothing that I wouldn't go through. That's what I do. I've got a mind for
l'Americana vu d'ailleurs. Voilà ce qui nous occupe dans ce troisième épisode avec Richard Delogu. On écoutait Théo Lawrence à l'instant. On se balade ailleurs qu'aux États-Unis et là on va aux antipodes maintenant avec un musicien qui a eu plusieurs groupes. Là c'est son groupe The Drones que tu nous fais entendre.
Oui, c'est Gareth Lydiard. Alors, c'est un de mes héros, en fait, vraiment de la musique de ces 20 dernières années. J'adorais The Drones parce que le groupe a disparu en 2016. Il était dissous en 2016. Il a refondé depuis Tropical Fuckstorm, qu'on a pu voir à plusieurs reprises d'ailleurs à Rennes, enfin sur scène, qui reste un groupe assez extraordinaire. Beaucoup plus noisy, en fait, que étaient les Drones. Non pas que, enfin, les derniers albums étaient assez noisy, mais les premiers étaient beaucoup plus inspirés par Neil Young, notamment dans sa période Crazy Horse, avec quelque chose de très 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 électrique. Hein. C'est une espèce de dégénérescence, en quelque sorte, de ce qu'aurait pu être le Crazy Horse. Il poussait du côté punk et des grands espaces arides et très austères de l'Australie, quoi. Et Gareth Lydiard, c'est un type que je trouve incroyable, et sur scène c'est absolument phénoménal. Il est chamanique, hein. C'est, il a quelque chose qui est plus proche de David Bowie ou ce genre de chanteur, quoi. Il est extrêmement charismatique et en plus un excellent guitariste, très très singulier en fait dans son jeu. Et ce titre là Shark Fin Blues, c'est probablement, pour moi, c'est le plus réussi de toute la carrière de The Drones.
On écoute The Drones et je te dis à bientôt. Richard, on te retrouvera pour un quatrième et dernier épisode d'Americana dans The Boulevard cet été. À bientôt.
À très vite.
My shadow stretch. The sun pours my shadow upon the deck. The water's licking round my ankles now. There ain't no sunshine way, way down. I see the sharks are in the water like a slick saw mink. Well, there's one there bigger than a submarine. As he circles, I look in his eye. I see Jonah in his belly by the campfire light. Lord, albatross up in the wind blows. He's beating his wings while he sleeps it off. I hear the denizen cries from his dreams on Kai. In my ears like a riding crop. Well, the captain wants his idol as a fake day, day. He's down the head up in the gutter like a slide out lick. He's like a dying of thirst and he says alright, fake. Well, we're gonna be alone from here on in. Looks like nothing but the sea and sky. Lord, remind. We'll be right back.
Une autre voix, une série d'entretiens par Soizic Le Bail. Elles y ont pensé longtemps, réfléchi beaucoup et ont franchi le pas. Changer de vie professionnelle, c'est imposer. C'est aussi prendre des risques, quitter un certain confort. Mais être maîtresse de ses choix leur est apparu le plus important. Quatre femmes, quatre histoires différentes à chaque fois. Aujourd'hui, Soizic Le Bail rencontre Lydia Lacour, qui a expérimenté beaucoup de métiers avant de choisir de fonder une librairie. La rencontre dans le nouveau quartier de la Plaine de Beaux, affirmant ainsi son lien indéfectible avec les livres.
Lydia Lacour, bonjour.
Bonjour Soizic.
Alors là, nous sommes dans votre belle librairie Plaine de Beaux, La Rencontre, mais ce n'est pas votre première expérience professionnelle. Vous avez opéré plusieurs virages, m'avez-vous dit, et j'aimerais que vous nous en parliez.
En fait, à la sortie des études de lettres, je voulais être bibliothécaire. J'aime lire depuis que je suis toute petite, et c'était pour moi un métier de rêve, donc j'ai passé les concours. Et j'ai été bibliothécaire en tout début de carrière. J'ai commencé dans une ville en région parisienne. Et c'était assez étonnant de confronter la représentation idéale que j'avais de ce métier où on aurait pu passer tout son temps à lire. Et en fait, je me suis retrouvée à 23 ans responsable d'une structure, d'une équipe, d'un budget, de collections à gérer, et la confrontation au monde professionnel a été assez rude. Voilà, donc ça c'est la première expérience. Assez rapidement, je me suis dit, ce domaine de la bibliothèque, il correspond pas à ce que j'en avais imaginé. J'avais l'impression d'être dans une atmosphère de musée, c'est-à-dire un endroit. C'était il y a plus de 30 ans maintenant, hein. Mais un endroit dans lequel il était difficile d'apporter de la vie, il fallait du silence.
C'est sanctuaire.
Voilà, et ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais, même si il y avait des expériences incroyables. J'ai fait des bibliothèques de rue en sortant des livres à l'extérieur pour aller les lire au pied des cités, dans des jardins. De très très belles expériences, donc ça m'a amené à réfléchir sur ce que je souhaitais réaliser avec les livres. Et donc, dans les réflexions, ce qui est apparu, c'est que j'avais envie de travailler auprès de publics dits empêchés, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir des murs, quels qu'ils soient, pour aller vers la lecture. Et j'ai commencé à faire des recherches pour travailler soit dans le domaine carcéral, donc pouvoir trouver un poste en prison, soit dans le domaine de sanitaire, de la santé, donc dans les hôpitaux. Toujours en tant que bibliothécaire, toujours avec le livre comme étant la boussole. Donc au moment où je réfléchis sur ce que je peux faire, quel secteur, je trouve un poste à l'hôpital. Et à l'hôpital, on me dit, ma bibliothécaire, c'est un poste qui existe, mais on va vous donner d'autres choses à faire. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans pour les hôpitaux, avec le secteur culturel et la partie bibliothèque dans mes missions. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer à nouveau. J'ai postulé à l'école des hautes études en santé publique à Rennes comme responsable de formation, parce que ça faisait de nombreuses années que j'avais envie d'expérimenter la formation professionnelle auprès des adultes. C'est-à-dire comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend et pour aller vers quel type de métier. Ce qui est intéressant, c'est que quand je fais le premier saut, c'est-à-dire que je passe de la bibliothèque à l'hôpital, dans ce premier saut-là, il y a eu de la formation. parce que j'ai changé de fonction, même si j'ai gardé la partie livre. Et quand je fais ce deuxième saut qui m'amène de l'hôpital vers l'école de la santé, en fait, ce qui est recherché à ce moment-là, c'est mon expérience professionnelle pour pouvoir la transmettre. Mais à nouveau, je fais des formations. Parce que le rôle d'ingénieur pédagogique ou de responsable de formation, il s'apprend aussi par rapport aux attendus et aux objectifs. Ce sont des formations professionnelles avec des personnes qui sont déjà dans des établissements de santé et qui vont acquérir d'autres responsabilités. Donc pour aller vers des responsabilités de cadre, on forme ces professionnels-là à des expériences professionnelles et des apprentissages qui leur permettent ensuite de tenir des fonctions avec davantage de responsabilités.
Formation RH, un peu de droit du travail, un peu de droit tout court.
RH, effectivement, la partie finance aussi, la partie achat, tout ce qui relève du champ du management aussi. Et puis souvent, ce sont des formations qui s'accompagnent de stages sur le terrain, donc avec des immersions dans des établissements pour pouvoir se former auprès d'autres professionnels. Et ce compagnonnage-là, il est très important. Sur cet étrange musique, les tsingarellas se levèrent. Tambour de Pascal et l'ordre, et les guitares forcenées, grincent sous des mains obstinées, même chanson, même refrain, même chanson, même refrain.
Il y a combien de temps maintenant? 3 ans? 4 ans? La rencontre, la librairie. On peut dire que vous revenez à vos premiers amours, mais d'une manière un peu différente. C'était quoi le déclic?
À nouveau une rencontre. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que j'ai changé de travail, c'est qu'il y a eu une rencontre. Et quand cette rencontre a eu lieu, ça s'est toujours déroulé de la même manière. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est à la fois un pari et un risque, parce que changer d'orientation professionnelle, ça comporte toujours une partie d'imprévu. Pour répondre à votre question, je suis donc à l'école de la santé, et auprès de cette école est adossée une maison d'édition qui s'appelle Les Presses de l'EHESP. Les Presses me contactent en disant, mais par rapport aux professionnels que vous formez, ce serait bien de pouvoir rédiger un livre. Je commence la rédaction de ce livre, et lorsqu'on écrit, c'est un éditeur qui nous accompagne. Et cet éditeur, c'était Julie, cette éditrice, en l'occurrence, c'était Julie qui travaillait aux Presses de l'HESP. Et au cours des échanges et de ce temps de travail, au fur et à mesure, nous commençons à parler du métier libraire et à nous dire, tiens, ce serait intéressant de faire un projet ensemble. Et ça faisait déjà quelques années que je me disais, tiens, la partie livre est un peu en retrait maintenant dans mon cheminement professionnel. Et là, elle revenait au premier plan. Dans ces discussions-là, nous avons bâti en fait un projet d'apprentissage, de formation au métier de libraire, puis d'ouverture de librairie.
Vous avez fait l'école de Laval ou bien ?
Non, ça c'était une option, l'école de Laval. Mais en fait, on a suivi des formations avec des organismes professionnels qui font des formations plus courtes, puisqu'on avait déjà l'une et l'autre en bagage. Elle étant éditrice, moi ayant été bibliothécaire, on avait déjà un bagage de base. On s'est formé au métier de libraire, mais aussi à la posture d'entrepreneur. Et encore plus entrepreneur au féminin. Je dis encore plus parce que ça emportait des questions qui sont assez spécifiques apparemment aux femmes qui ouvrent leur entreprise et qui ont des questionnements sur leur légitimité. Sur leur capacité à faire, sur la manière dont elles vont valoriser leur activité. Donc ça a été un travail assez important. Je vais prendre un exemple, alors qui nous concerne pas complètement en librairie, parce que vous le savez, le prix du livre est unique et il est le même partout. Mais dans ce que j'abordais, il y a le fait qu'une femme qui ouvre une entreprise ou un commerce, par rapport à un homme, va minorer le prix de ce qu'elle vend. C'est-à-dire que quand elle en fait l'estimation, la valeur sera inférieure à l'estimation que pourrait en faire un homme. Ce que je dis relève des statistiques et pas d'un ressenti. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on démarre une formation, on nous fait travailler aussi sur notre capacité à occuper cet espace-là, cette fonction-là d'entrepreneuriat, chef d'entreprise. Et donc ça, ça a été une découverte, puisque bah, pour ma part, j'ai travaillé pendant de longues années dans des institutions publiques, et c'est une découverte que de savoir comment être chef d'entreprise. Et effectivement, dans ce quartier en particulier, qui lui est en plein développement. Je dois dire que je suis très heureuse d'avoir traversé toutes ces étapes. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance avec des rencontres qui me portent et continuent d'ailleurs à m'apporter souvent. Tous les liens qui se sont tricotés d'une partie professionnelle à une autre sont toujours présents. Et finalement, j'ai l'impression d'avancer, de cheminer, de construire en étant accompagnée. Et j'ai l'impression aussi que ce cheminement-là, il ne peut se faire que si on est bien accompagné. Et de ce point de vue-là, je crois que j'ai beaucoup de chance.
Donc là, vous êtes deux, donc, hein, Julie et vous. C'est comme ça que vous dites que vous êtes bien accompagnée, ou bien vous avez un entourage qui vous porte?
Oui. Alors, il y a le duo, le binôme, mais effectivement, l'entourage est extrêmement important. Aussi bien pour les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont permis que le projet se monte, que pour les personnes qui viennent dans la librairie et qui reviennent. Et quand on se lance comme ça, on peut commettre des maladresses, faire des erreurs. Voilà, qu'on réajuste, hein, qu'on revoit. Mais c'est important d'avoir un regard extérieur et qui puisse justement nous le faire remarquer et nous permettre d'avancer. C'est là où je parle d'accompagnement, en l'occurrence.
De votre expérience de bibliothécaire et de votre relation au livre, ça change quoi d'être libraire ?
C'est une question intéressante. Elle est d'ailleurs intéressante à deux titres. Le premier point, c'est que de mon point de vue, les rôles de bibliothécaire et de libraire sont complémentaires. Et d'ailleurs, on le voit bien par rapport aux personnes qui viennent dans la librairie. Certaines personnes nous disent « moi, je vais beaucoup en bibliothèque ». J'emprunte beaucoup, mais quand il y a un livre qui me plaît énormément, qui me touche, j'ai besoin de l'avoir pour moi, et donc je viens vous voir. Et de ce point de vue-là, ça circule. Et puis le deuxième point, c'est que lorsqu'on est libraire, on est, je trouve, beaucoup imprégné du rythme de parution. C'est-à-dire la nouveauté est très très présente. Alors que quand on est bibliothécaire, on est plutôt dans un souci de conservation et de constitution de collection. Et c'est en ce sens qu'on n'est pas complètement au même endroit dans la chaîne du livre.
Et vos goûts littéraires, est-ce qu'ils jouent dans la sélection ou pas, dans la constitution de votre fonds ?
Il joue parce que on vient nous chercher. Une personne qui rentre dans les librairies vient nous chercher en disant quels sont vos coups de cœur. Et souvent, c'est ce qui est demandé. Et je crois, et c'est en ça où je trouve que les deux rôles de bibliothécaire et libraire se rejoignent à plein d'endroits. Mais je crois que c'est aussi le plaisir de lecture qui fait qu'on embarque une personne avec nous dans le conseil. Et le conseil, quel que soit l'endroit, il repose avant tout sur cette capacité à dire, mais ça, je l'ai tellement aimé, mais lisez-le et on partagera après ce plaisir de lecture.
Et vous avez autant de temps qu'avant pour lire ? C'est mon interrogation toujours.
Alors déjà, je ne sais pas ce qu'est le temps d'avant, mais c'est assez contradictoire et paradoxal, c'est-à-dire que je vois beaucoup, beaucoup plus de livres que je n'ai pu en voir jusqu'à présent. Et j'ai sans doute moins de temps de lecture que si j'avais du temps disponible qui pouvait s'ouvrir. Mais quand même, mes lectures sont plus diversifiées.
Souvent, les bibliothécaires ont des rayons dont elles sont en charge. Et là, vous, eh ben non. Là, nous sommes dans la partie jeunesse. Il y a des essais plus loin, il y a des romans imaginaires, il y a de la littérature contemporaine. Oui. Et vous devez au moins suivre, savoir un peu de quoi il s'agit.
Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est plus diversifié, parce que c'est une librairie généraliste, même si nous proposons en jeunesse, en bande dessinée, sur le secteur parentalité aussi, beaucoup de titres. Mais il est important de pouvoir répondre sur les nouveautés et de pouvoir répondre aussi sur des recherches qui seraient un peu plus spécifiques. Donc oui, il y a une ouverture à la diversité éditoriale qui est assez importante. Après, je dirais que nos lectures, en tout cas nos sensibilités avec Julie, ne sont pas au même endroit, ce qui permet qu'on soit complémentaires dans le conseil. Vous parliez de la partie imaginaire qui serait davantage celle de Julie, moi où j'adore les polars. On ne sait pas distribuer en fait les rayons, mais de manière assez naturelle, nos lectures se complètent. Et surtout, cette diversité, elle vient des échanges et des partages avec les lecteurs et les lectrices qui nous rendent visite. C'est ça qui ouvre toutes les portes.
Donc là, c'est votre troisième ou quatrième changement de métier, et peut-être un autre jour, une autre rencontre, et vous ne dites pas non ?
Ah, c'est une question intéressante. Il m'est arrivé de dire non, parce que la rencontre, elle est liée à la personne, à l'envie de construire et sans doute d'apprendre, mais d'apprendre avec une équipe, un collectif ou une personne. Mais c'est vrai que la suite reste toujours ouverte de mon côté.
Et ben voilà une bonne nouvelle. Rendez-vous à La Rencontre, à Plaine de Baux. Merci Lydia.
Merci beaucoup Soizic, merci à vous.
Forgive the things I do to you. You're too good, or am I not too bad? Those 6 years, the best that ever happened to me and you. Your regrets after all this fear will always be.
Dans ce troisième épisode de la série, une autre voix par Soisy Globaille qui rencontrait aujourd'hui Lydia Lacour. Vous avez entendu sa sélection musicale, des extraits de l'acte 2 de Carmen de Georges Bizet, interprété par Marianne Crébassa dans le rôle de Carmen, Céline Laborie dans celui de Frasquita et Victoire Bunel dans celui de Mercedes, accompagnées toutes les trois par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Ben Glasberg. Lydia Lacour a aussi choisi le titre Out of Sight par Hoover Phonique que vous entendiez à l'instant. Dans une prochaine émission de Boule Vanille, un vendredi, vous retrouverez une autre de ces quatre femmes qui nous proposent quatre histoires de changement de vie. Dans De Boule Vanille, cet été, vous l'avez peut-être déjà entendu, Léa nous rend visite. Bonjour Léa.
Salut.
Pour des ondes graphiques qui prennent le large, le format est un peu différent de ce que tu proposes dans l'année, dans l'émission Le Grand Tout, mais tu nous parles toujours bande dessinée, mais cette fois, des albums qui se font plus petits, que vous pouvez emmener partout, si vous prenez le train, l'avion ou le bateau, eh bien ils se glisseront dans vos sacs à dos. C'est des versions poche d'albums que tu as beaucoup aimés. Et aujourd'hui, dans Ondes Graphiques qui prennent le large numéro 3, tu nous parleras de Bugalette Braise par Pascal Bresson et Erwan Le Saec. C'est paru chez Locus Solus, maison d'édition bretonne. C'était paru à l'origine en octobre 2016, mais tout récemment, une version poche vient de sortir.
Simone Veil, Badinter, Les Époux Karsfeld et j'en passe. Pascal Bresson est connu pour être un scénariste prolifique de biographies. Il est aussi attaché à la terre bretonne, à laquelle il rend hommage dans la série Entre terre et mer avec Erwan Le Saec au dessin. Ici, tous les deux s'emparent d'une tragédie qui a marqué la région, le naufrage du Bugalette Braise, un chalutier de Loctudy. Dans une enquête journalistique mêlant fiction et faits réels, ils exposent le silence et les mensonges que doivent supporter les familles des victimes. Car le 15 janvier 2004, aux alentours de midi et demi, le navire sombre en 37 secondes, causant le décès des 5 marins à bord. Les circonstances ne sont pas claires et Arthur Bosneck, journaliste inventé, entend faire la lumière sur les événements à l'origine du drame. À ses côtés, on découvre le nombre effarant d'absurdités qu'on sert aux familles et à la presse. On dit que ce serait dû à une erreur du capitaine pourtant chevronné. On tente d'incriminer un cargo qui est accusé d'avoir heurté le Bugalette Braise alors qu'il n'était même pas dans les parages. Et il y a ce radeau de survie coulé intentionnellement par les autorités. Et puis surtout, le silence autour de la très probable présence de sous-marins aux alentours.
Et pas des sous-marins russes, hein.
Des sous-marins français. Le personnage de Bosneck en fait une affaire personnelle, en opposition au drame qu'il habite. Il s'accroche et s'acharne, remue ciel et terre pour faire éclater la vérité. Mais il se heurte avec fracas au pouvoir public. Les deux auteurs livrent leur version de l'un des secrets les mieux gardés de ces dernières années, puisque la justice française a prononcé un non-lieu en 2016 et que la justice britannique, donc les eaux dans lesquelles a coulé le navire, a elle conclu à un accident de pêche en 2021. Si vous êtes à jour sur les nombreuses émissions de Fabrice Douvrel et ses affaires sensibles, pardon, je fais une infidélité à Canal B, Bugalette Braise vous satisfera par son côté cold case local. Attention, sentiment de révolte sous-jacent bien présent.
Et pour contrebalancer ce récit noir, forcément, tu nous proposes une sélection un peu plus légère.
Tout à fait. Je propose le premier titre de l'album Modal Soul de Nujabes, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle Feather. Parce que ça a justement des good vibes estivales.
On en profite et jetez-vous donc sur les sélections de Léa dans ces ondes graphiques qui prennent le large. On te retrouvera un autre vendredi dans De Boule Vanille. Merci, à bientôt.
Merci, à la semaine prochaine.
Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans are mice and men.
just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater.
Taking chances, word tap dancing with wolves in an ice arena out there, deep in the woods of Arizona. The sun be out, life's around again, and trying to be Dali when I write surreal life up painted vivid. Habitat crazy, insane, watching propaganda, 6 o'clock news and insane. Cultures clash, all black folk and white trash. They revel in the cyberspace that might crash. Dash to millennium, a million miles of running at the speed of now, but I don't return gunning. Rambo style gun hold child gunning. Airboat plow two times loud, stunning.
Stunning when they hit you, lift you off the earth like, hey yo, take you right back to birth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. It go
drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the summit that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the summit that is greater. So
treat you better than me, cause that's the heavenly key to unlock the inner strength.
Pour terminer, De Boule Vanille aujourd'hui, une interview d'Émile Rabaté, journaliste et documentariste lorientais, qui parlera avec Clément Sanson de Radio Boa, de Christophe Glaise, journaliste au magazine SoFoot, actuellement emprisonné en Algérie. Clément Sanson l'a rencontré tout récemment au Festival des Vieilles Charrues, histoire de rappeler les faits, de revenir sur le contexte et puis de prendre des nouvelles de Christophe Glaise. En fin de discussion entre Clément et Émile tout à l'heure, je vous donnerai des moyens eh bien, de signer une pétition ou bien d'envoyer carrément un courrier à Christophe Glaise.
Bonjour Émile.
Bonjour Clément, merci de m'interviewer.
Émile, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler le contexte, comment Christophe Glaise a été emprisonné, pourquoi, voilà, rappeler un petit peu les faits.
Donc en fait, en mai 2024, Christophe s'est rendu en Algérie pour une série de reportages pour le magazine SoFoot, pour lequel il travaille. Et parmi les reportages qu'il effectuait là-bas, il y avait un papier qu'il souhaitait écrire sur la JSK, la Jeunesse Sportive de Kabylie, qui est un grand club de foot algérien, qui a une grande histoire dans le championnat algérien. Et donc, lui, évidemment, en tant que journaliste de SoFoot, c'est le genre d'histoire qu'il a envie de raconter, parce que c'est un club mythique, en fait, en Algérie. Donc, il s'est rendu en Algérie pour réaliser des entretiens et retracer un peu l'historique de ce club. Il ambitionnait d'écrire un long papier sur ce club pour SoFoot. Et pendant qu'il était en train de faire son travail, il y a des policiers algériens qui l'ont interpellé, qui lui demandaient ce qu'il faisait là. Très vite, la situation a dégénéré. Ils lui ont demandé à ce qu'il lui confie son ordinateur, son appareil photo. Et en fait, il a été placé en garde à vue. Ensuite, partant de là, pour les proches qui le connaissions, c'était vraiment un peu irréel de suivre cette situation, parce qu'il y a eu ce premier événement-là. Ensuite, derrière, il nous a dit, voilà, j'étais en garde à vue, maintenant je suis en liberté conditionnelle, je ne peux pas quitter le territoire algérien. Pendant un an, il a attendu un procès, parce que du coup, il devait passer en procès. En juin 2025, quand est intervenu son procès, il a été accusé d'apologie du terrorisme et il a pris 7 ans de prison. Alors pourquoi apologie du terrorisme ? Dit comme ça, on ne comprend pas. En fait, faut savoir qu'en Algérie, la Kabylie, c'est un peu comme la Corse ou les Bretons. C'est une région de la Kabylie qui a des volontés un petit peu autonomistes ou indépendantistes dans certains courants de la population. Et c'est quelque chose qui, pour le pouvoir central d'Alger, est très sensible en fait. Christophe, quand il s'est rendu dans ce club de foot pour parler avec des dirigeants et des cadres du club, il a aussi rencontré des personnes qui, par ailleurs, dans leurs autres occupations, pouvaient ou étaient accusées, en tout cas par le régime d'Alger, de faire partie de mouvements autonomistes kabyles. Mais en fait, le la logique de la justice algérienne, c'est de dire vous êtes un journaliste sportif qui s'est entretenu avec des cadres de ce club de foot qui ont par ailleurs des activités dans des mouvements autonomes que nous considérons comme terroristes, donc vous faites l'apologie du terrorisme. Et donc, sur la base d'avoir fait son métier, d'avoir simplement discuté avec des gens, Christophe s'est retrouvé emprisonné pour 7 ans pour apologie du terrorisme. Et ça, c'est quelque chose que nous, son comité de soutien, ses amis, ses proches, sa famille, on dénonce absolument, parce que Christophe est un journaliste qui n'a rien à faire en prison, il n'a rien fait de répréhensible, concrètement, il était juste en train d'exercer son métier, et on demande aujourd'hui tout simplement sa libération.
Est-ce que tu peux nous dire comment il va? Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment ça va?
Donc en fait, Christophe peut avoir tous les 15 jours une visite de sa famille. Évidemment, comme sa famille réside en France et qu'il est en Algérie, ils ne peuvent pas y aller tous les 15 jours. Vous imaginez que c'est beaucoup de temps et un budget. Donc ils essayent de s'y rendre quand même tous les mois. Tous les mois, ils vont visiter Christophe, qu'ils peuvent voir pendant 30 minutes. Derrière une vitre de plexiglas avec un hygiaphone, ils ne peuvent pas se toucher, il n'y a pas de contact. Et nous, il ne peut pas nous écrire, il ne peut pas nous appeler. Nous, on peut lui écrire. Je sais qu'il reçoit certaines de nos lettres, parce qu'on l'a su par ses parents et son frère qui nous donnent des nouvelles. En fait, Christophe, pendant un an, il a été hyper vaillant. Il a vraiment gardé un moral d'acier. Il nous a beaucoup impressionnés par son courage et sa ténacité. Mais là, aujourd'hui, là aussi où nous on interpelle de plus en plus, c'est qu'on sait qu'en fait cette situation commence à lui peser énormément et que il a le moral dans les chaussettes quoi, concrètement. Et il est à la merci d'une condamnation qui a été prononcée sur aucune preuve. Il sait pas du tout quand est-ce qu'il va pouvoir sortir. Il a fait appel de sa première condamnation, ça a été confirmé en appel. Il s'était pourvu en cassation. Il a décidé de se désister de son pourvoi en cassation et aujourd'hui son sort est entièrement entre les mains du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui est la seule personne aujourd'hui qui peut libérer Christophe de prison sur une grâce présidentielle.
Qu'est-ce que fait l'État français à ce niveau-là? Est-ce que vous avez du soutien? On pense évidemment à Monsieur le Président. Est-ce que vous l'avez sollicité? Qu'est-ce qu'il peut faire lui peut-être?
Ah oui, évidemment, ils ont été sollicités et c'est vrai que de ce côté-là, heureusement, le comité de soutien peut compter sur l'appui des ministres, du président, de députés, de maires qui ont aussi, pas plus loin que Saint-Brieuc, le maire de Saint-Brieuc a pris fait et cause pour Christophe et a affiché son portrait sur la façade de la mairie. Il y a d'autres mairies en France qui l'ont fait. Donc il y a du soutien politique. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sont aussi des personnes qui sont impliquées aujourd'hui sur ce sujet. Et heureusement, le dossier est sur le haut de la pile. Donc ça, c'est bien, mais il faut savoir qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui est un résultat de la mobilisation que le comité de soutien a entraînée, parce que c'est aussi cette mobilisation, c'est aussi le soutien populaire, les échos médiatiques qui font qu'aujourd'hui le gouvernement s'est emparé au niveau auquel il s'en est emparé de cette affaire. Donc c'est pour ça que nous on relâche pas la pression et qu'on est aujourd'hui par exemple aux Vieilles Charrues pour continuer la médiatisation de son histoire.
Pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on peut soutenir et comment on peut rejoindre aussi peut-être le comité de soutien de Christophe?
Alors il faut savoir que sur le site de RSF, Reporters sans frontières, il y a une pétition que vous pouvez signer. C'est très important parce que chaque signature compte dans une pétition et ça vient officialiser le soutien populaire à Christophe. Vous pouvez suivre le compte Instagram Friglaise, poster, en parler autour de vous. Vous pouvez écrire à Christophe. Donc si vous voulez, je pourrais envoyer l'adresse à laquelle on peut lui écrire aujourd'hui. Il reçoit des cartes de partout en France et ça lui fait un bien fou. Ça le soutient énormément. Et voilà, déjà, toutes ces actions, ce serait super, ouais.
Merci beaucoup, Émile, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de Christophe. Et on va suivre, en tout cas, la suite des événements. On espère qu'il va être libéré très rapidement.
J'espère aussi. Merci beaucoup, Clément.
Clément Sanson de Radio Boa s'entretenait avec Émile Rabaté à propos de Christophe Glaise, journaliste au magazine SoFoot, qui est en ce moment emprisonné en Algérie. Sur canalb.fr, vous retrouverez un lien vers une pétition demandant la libération de Christophe Glaise et puis aussi l'adresse où vous pouvez écrire au journaliste emprisonné. Pour terminer cette émission de Boule Vanille, voici Idir, le grand chanteur kabyle, avec son fameux titre de 1975, Avava Inouva. À bientôt, une nouvelle fois un vendredi dans l'émission estivale de Canal B de Boule Vanille. Bon été sur Canal B ou ailleurs. Ciao.
أمغريت سلذق برنوس ذي سيالة يزيزين مسيت حبير القوت وسندق قارص الزين أمغريت سلذق برنوس ذي سيالة يزيزين مسيت حبير القوت وسندق قارص الزين سيد ذفير وزطاق سليتي جبالين أرش الزين ديث مغرفاس انتصار تقديمين سليت ذفير وزطاق سليتي جبالين أرش الزين ديث مغرفاس انتصار تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين ديث مغرف يا لا لا يا لا 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 أسنت صغر في قديمي جاتيني ما يلي غريبة
وكل الوحش الغابة غابة بين وغابة بين وغابة
وبذغو لذناكيني ما يلي غريبة من سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما تفليت سود في بورا ثقيك شمن سحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما ملاق جمورا تزفتي ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تزلسلا ملاق جمورا تزفتي ذكرا كيني ذنين ملال داك واث وخامث ما شاهو تسلم
يا لا لا يا لا لا لا
ملال داك واث وخام
يا لا لا يا لا لا لا
ما شاهو تسلم
صدق اللي انت بورد بابين وبغاب بابين وبغاب
جن جن تيز بقاثيني ما يلي غريب
وكل الوحش الغاب
كيني ما يلي غريبه.